Bonjour, je n'ai pas eu le temps de saluer tout le monde, même si j'étais à l'accueil ce matin. Mais je suis vraiment heureuse de vous voir toutes et tous ce matin. Et nous sommes dans ce cycle d'enseignement sur les dons de l'esprit et comment les recevoir pour nous mettre au service du Seigneur. Et en réfléchissant à ce thème, j'étais en train de repasser et puis j'ai demandé au Seigneur, mais comment est-ce qu'on pourrait décliner ce thème de plusieurs façons dans nos messages, Nicolas et moi? Et puis j'ai vraiment reçu cette idée de parler de quelqu'un qui a régné sur Israël et qui était rempli de l'Esprit de Dieu. Alors Sylvain nous a déjà dit ce matin de qui il s'agissait. Il s'agit de David. David, ce roi empli du Saint-Esprit, ce roi qui a écrit des psaumes magnifiques qui nous guident dans notre vie spirituelle encore jusqu'à maintenant. Et donc, je vais vous parler de ce roi David, serviteur selon l'Esprit de Dieu et serviteur selon le cœur de Dieu. Un matin, j'enseignais les femmes à l'église, à Mokolo, dans notre rencontre hebdomadaire, et il y en a une qui m'a demandé, mais Dada Mathieu, alors on m'appelait Dada Mathieu là-bas parce que c'est la maman de Mathieu, c'est l'enfant aîné. Dada Mathieu, quand on parle de David, celui qui a tué Goliath, et David le roi à Jérusalem dans la Bible, c'est le même personnage ou ce sont deux personnages différents ? Alors, j'étais interloquée parce que pour moi, il n'y avait même pas de question. Mais au-delà du fait que ça montre un faible niveau de connaissance biblique, cette question, ça m'interpelle d'une autre façon. J'y retrouve l'évocation de la longue vie de David, qui en fait a connu, comme on dit de nos jours, plusieurs vies. Celle d'un berger courageux, celle d'un serviteur, humble musicien auprès du roi Saül. Celle d'un guerrier intrépide, celle d'un roi respecté ou haï par certains selon les moments, celle d'un homme en proie à ses démons et obéissant à ses pulsions. Alors oui, finalement, ce berger et ce roi sont le même personnage dont nous parle la Bible. Et s'il a vécu tellement de vies, c'est parce que Dieu l'a choisi, lui a accordé son esprit, sa confiance. Et son obéissance l'a amené à vivre tant de situations différentes. Mais c'est également ce que Dieu nous demande à nous, nous laisser conduire par son esprit et nous mettre en toute confiance à son service. Tout comme David, nous sommes choisis par Dieu. Alors regardons comment Dieu peut nous encourager par son exemple de vie, de service auprès de Dieu. Alors, on ne va pas voir toute la vie de David, parce qu'elle est tellement riche, on n'a pas le temps ce matin. Je ne vais pas vous parler de David, qui est la figure de Christ dans la Bible. Ça serait un autre enseignement. Mais je vous propose de regarder quelques étapes de sa vie et de voir comment elles peuvent nous enseigner. Donc, arrêtons-nous sur certaines de ces étapes. Nous le savons donc, j'en ai parlé. David, c'est un jeune homme courageux. Nous faisons sa connaissance au détour d'une visite du prophète Samuel. Dieu l'a envoyé oindre le futur roi d'Israël qu'il s'est choisi à la place de Saül qui s'est disqualifié lui-même et à plusieurs reprises. Fort de cette connaissance, nous imaginons que Samuel va oindre un personnage exceptionnel, plein de qualités diverses et exempt de péché. Tout ce que Saül n'est pas, quoi. Puisque Saül, si on connaît son histoire, on sait qu'il s'est vraiment éloigné de Dieu. Alors lisons 1 Samuel, dans le chapitre 16, les versets 12 et 13, pour savoir qui est ce David. Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux, avec de beaux yeux et qui avait belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Vas-y, C'est lui, confère-lui l'onction. Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. Voilà comment nous est présenté David. C'est le plus jeune de 8 frères. Et c'est tout à fait contraire au droit d'aînesse qui prévalait à cette époque. C'était un jeune berger. Ce qui est étonnant pour un futur roi. Mais Dieu aime nous étonner et sortir des sentiers battus. Il sort des pensées toutes faites. Et ce qui est le plus important pour moi dans ce texte, c'est que l'Esprit de Dieu tombe sur David dès qu'il est oint par Samuel et que cet esprit, il est bien dit, ne le quittera plus jamais. C'est quand même important. Cela nous indique comment nous devons considérer, comprendre le parcours de David. Dieu est avec lui, en lui et le guide. David, il est élevé dans la foi en Dieu, il est éduqué dans cette voie, mais il voit sa vie prendre une toute autre dimension par ce don de l'Esprit en lui. C'est l'Esprit Saint qui l'habite, qui va le conduire à soumettre sa vie totalement à Dieu. Et nous pouvons vérifier cela à travers 2 situations. Sa bravoure est connue des siens, car il protège bien les troupeaux de sa famille contre les ours et les lions. Cette bravoure va être sublimée en lui par l'Esprit Saint. Alors que l'armée d'Israël lutte contre les Philistins, que ces derniers insultent Israël, David ne peut le supporter. Il n'est pas choqué que Goliath s'oppose à leur armée. Il est bouleversé et il demande, ah, ça ne veut pas passer, qui est Goliath, cet incirconcis de Philistin, pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant. Ce n'est pas le fait qu'il soit en lutte contre Israël, c'est parce que Dieu est insulté. La gloire de Dieu est en cause. Est-ce que nous sommes aussi tellement emplis par Dieu, par l'amour et le respect que nous avons pour lui, que nous pouvons voir l'enjeu spirituel derrière les situations que nous traversons? Ce don de discernement, c'est l'un de ceux qui sont cités en 1 Corinthiens 12. Alors, si vous ne voyez pas comment on peut mettre ça dans notre vie, je me souviens d'une situation très simple. Lorsque j'habitais au Cameroun, les parents n'hésitaient pas à dire de petits mensonges à leurs enfants pour justifier leur conduite. Par exemple, les mamans promettaient toujours à leurs enfants qu'elles allaient leur rapporter des bonbons du marché, tout en sachant très bien qu'elles n'en feraient rien. Selon ma connaissance biblique, c'est une situation de désobéissance devant Dieu, de mensonge. La parole nous enseigne que ton oui soit oui. Notre Dieu, c'est le Dieu de la vérité. Alors si nous commençons à parler ainsi, à promettre des choses que nous n'avons aucune intention de réaliser, nous bafouons la vérité et donc nous bafouons Dieu, comme Goliath a bafoué et provoqué Dieu aux yeux de David. La conséquence de ce genre de conduite au Cameroun, c'est que petit à petit, les enfants commençaient eux aussi à mentir pour se sortir des situations périlleuses. En tant que maman chrétienne, je suis tout aussi gênée par certains mensonges que nous faisons toujours à nos enfants. Par exemple, en ce qui concerne le Père Noël. Nous imaginons que ça ne porte pas à conséquence et nous ne voyons pas l'enjeu spirituel. Nous laissons la porte ouverte aux mensonges et donc au péché dans notre vie. Mais aussi dans celle de nos enfants, par un mauvais exemple. Si papa et maman ont pu me mentir, après tout, ce n'est pas si grave si un jour, moi, je mens aussi. Nous laissons l'Esprit de Dieu s'éloigner de nous dans ces circonstances. Nous ne sommes plus emplis par l'Esprit, en tout cas, nous l'attristons. Une autre situation, c'est celle que David vit en étant placé au service de Saül pour exercer ses dons de musicien. Alors, on trouve cet épisode en 1 Samuel chapitre 16, les versets 14 à 23. Alors, je vais perdre du temps parce que je ne l'ai pas recopié sur ma feuille. 1 Samuel 16, 14, voilà. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voilà qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Il te suffit, notre Seigneur, de dire un mot et tes serviteurs ici présents te chercheront quelqu'un qui sache jouer de la lyre. Quand le mauvais esprit de Dieu t'assaillira, le musicien jouera de ton instrument et cela te soulagera. » Saül répondit, « D'accord, cherchez-moi donc un bon musicien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs dit alors, « J'ai justement remarqué un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer de la lyre. C'est aussi un brave guerrier. De plus, il s'exprime bien, il a belle apparence et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya alors des messagers à Isaïe avec cet ordre, « Envoie-moi ton fils David, celui qui garde les moutons. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Il envoya ses présents à Saül par son fils David. Quand celui-ci arriva chez Saül, il entra à son service. Saül le prit en affection et lui confia le soin de porter ses armes. Il envoya dire à Isaïe, « J'apprécie beaucoup David, qu'il reste donc à mon service. » Dès lors, chaque fois que le mauvais esprit venu de Dieu assaillait Saül, David prenait sa lyre et en jouait. Alors Saül se calmait et se sentait mieux, et le mauvais esprit le quittait. Ce passage nous explique que David avait un bon talent de musicien et qu'il est sollicité pour jouer de la lyre auprès de Saül, qui est tourmenté par un esprit mauvais, puisqu'il s'est détourné de Dieu. Alors, lorsque nous lisons ce passage, nous constatons que Saül, sur les conseils de ses serviteurs, cherche juste un bon musicien pour être calmé de ses tourments. D'ailleurs, je me suis demandé, en préparant ce message, est-ce que c'est pas là que le proverbe bien connu « la musique adoucit les mœurs » vient ? Hein, parce que Saül, la musique l'adoucissait. Bon, ça c'est une blague. Mais la réponse est la recherche de l'un des serviteurs en particulier et d'envoyer chercher David qui est bon musicien, mais il dit « l'Éternel est avec lui ». Et ce serviteur-là, il voit là l'importance. Est-ce que ce serviteur est particulièrement sensible au fait que la situation se joue au niveau spirituel ? Apparemment, lui plus que les autres en tout cas. Il ne regarde pas uniquement les capacités humaines, il comprend qu'il faut plus. Et lorsque nous laissons Dieu diriger notre vie, son esprit nous rend aussi plus attentifs à certaines choses. Cette histoire nous permet ainsi d'imaginer que c'est l'esprit de Dieu qui habite en David qui est plus fort face au mauvais esprit de Saül. Ce n'est pas son talent de musicien qui est forcément le plus efficace dans ce cas. Et pour nous, ça peut renforcer aussi notre assurance que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, lui qui nous a envoyé son esprit. Mais ça m'interpelle encore aussi sur un point. Lorsque nous avons besoin de serviteurs dans tel ou tel domaine de l'Église, il ne faut pas seulement regarder à sa capacité humaine. Il faut aussi regarder sa situation spirituelle. Je suis convaincue que notre groupe de louanges ce matin ne pouvait pas nous amener, nous élever vers le trône de Dieu s'il n'avait pas été animé, rempli par l'Esprit. Lorsque Dieu nous emplit de son Esprit, il transcende notre service pour lui et ce service ainsi pratiqué nous aide à porter les autres plus près de Dieu. Juste accomplir une tâche parce qu'on a les capacités pour le faire, parce qu'on a la bonne volonté, ne suffit pas. Il faut être animé par l'Esprit de Dieu. En contrepartie, ce dernier ne va pas non plus nous laisser en repos tant que nous ne nous serons pas engagés. Je voudrais aborder une deuxième partie de la vie de David. Après avoir porté nos regards vers ce jeune valeureux David qui a éliminé un géant et qui est empli d'un esprit si puissant qu'il soumet un mauvais esprit, regardons comment, devenu homme, il a exercé la royauté que Dieu lui a confiée. Dans les premiers chapitres du deuxième livre de Samuel, nous voyons comment David est devenu roi sur Juda, puis sur tout Israël. Comment il a fait la guerre aux divers peuples qui occupaient les territoires du peuple de Dieu, afin de ramener l'unité et la paix dans son pays. Souvent, ces guerres nous semblent barbares et incompréhensibles. Pourtant, c'est bien Dieu qui permettait que David puisse reconquérir ses terres pour pacifier le pays. Alors, je n'ai pas compté toutes les fois que ça apparaît dans le texte, mais nous pouvons observer que chaque fois qu'il doit s'engager dans le combat, David consulte l'Éternel pour savoir comment avancer. Dans 2 Samuel 5,19, nous lisons « David consulta l'Éternel et lui demanda « Dois-je attaquer les Philistins ? Me donneras-tu la victoire sur eux ?» L'Éternel répondit à David « Attaque-les, car je t'assure que je te donnerai la victoire sur les Philistins. » David, il n'y va pas parce qu'il a envie d'y aller. Il faut y aller, mais il veut être sûr d'abord que ça vient bien de Dieu. Dans 2 Samuel 5,23, David consulta l'Éternel qui lui répondit « Ne les attaque pas de front, contourne-les par leurs arrières, puis reviens sur eux en face de la forêt des mûriers. » Mais nous pouvons également remarquer que pour savoir où il doit habiter, là encore il a demandé l'avis de Dieu. Après ces événements, David consulta l'Éternel et lui demanda s'il devait s'installer dans l'une des villes de Juda. Et l'Éternel lui répondit « Oui, dans laquelle dois-je aller ? À Hébron. » C'est dans 2 Samuel 2,1. Empli de l'Esprit de Dieu, David le roi n'imagine pas que parce qu'il est roi, il est celui qui peut tout décider de lui-même. Il connaît sa dépendance au Seigneur. Il sait que s'il ne l'écoute pas, s'il ne lui obéit pas, il ne pourra pas avancer bien loin dans la tâche qui lui est confiée. Ça aussi, ça nous enseigne pour notre engagement devant Dieu. Nous avons l'assurance, à cause des textes bibliques qu'il affirme, que nous avons reçu le Saint-Esprit lorsque nous avons reconnu Jésus-Christ comme notre Sauveur et comme notre Seigneur. C'est ce qui arriva à David quand Samuel l'a oint comme roi. Il a été définitivement rempli de l'Esprit. Nous aussi, la Bible nous dit que nous sommes remplis de l'Esprit. Alors, à partir de ce moment, est-ce que nous avons considéré que nous avancions dans notre vie chrétienne comme il convenait en tout temps, que c'était naturel, puisque nous étions devenus enfants de Dieu, donc tout va de soi? Ou bien est-ce que nous avons choisi de consulter Dieu pour savoir comment avancer sur ce chemin d'obéissance? Nous voyons que David, lui, il a consulté Dieu. Dieu lui a répondu, lui a donné des consignes précises. Il avait beau être le roi, il se soumettait à ce que Dieu lui montrait. Il cherchait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Est-ce que nous faisons de même? Ou bien est-ce que nous agissons selon nos envies en demandant à Dieu de bénir ce que nous faisons? Je ne sais pas si j'exprime bien ma pensée, mais il y a une différence quand même. Demander à Dieu ce qu'il veut que nous fassions, ou bien agir et demander à Dieu de bénir ce que nous faisons. Alors j'ai essayé de réfléchir à un exemple, et j'ai pensé à deux jeunes qui se seraient rencontrés durant un camp de jeunes chrétiens. Il n'y a aucune allusion à une situation existante ou ayant existé ce matin. Il y a une petite étincelle. Le jeune homme est conquis, il commence à draguer, à vouloir séduire. À une autre époque, on aurait dit à faire la cour à la jeune fille. Elle n'est pas insensible à ses avances, elle lui répond positivement. Ça, c'est l'attirance naturelle entre deux jeunes. C'est ce que j'ai connu dans ma vie, ce que d'autres ont connu dans leur vie. Maintenant, si on intègre la dimension du Saint-Esprit, parce qu'ils sont tous les deux chrétiens, ils vont avoir deux possibilités. Ils vont commencer à organiser des sorties ensemble, commencer à se découvrir, à s'apprécier. Et donc, les deux situations, c'est soit ils vont commencer à prier. Oh, mon Dieu, il est si génial. Ou elle est si sensationnelle. Seigneur, bénis notre relation et fais-nous avancer plus loin. Oh Seigneur, je ne veux pas la perdre, je ne veux pas le perdre. Accompagne-nous jusqu'au mariage. Soit ils vont avoir une autre attitude. Seigneur, je suis ton enfant, tu m'as donné ton esprit et j'ai besoin que tu m'aides à discerner quelle est ta volonté dans cette situation. Est-ce ta volonté que cette situation, cette relation évolue vers notre mariage? Comment devons-nous nous comporter? Qu'as-tu choisi pour nous? Je trouve que l'état d'esprit est complètement différent. Est-ce que vous le comprenez aussi à travers cette anecdote? Dans le premier cas, on demande à Dieu de faire coller sa bénédiction sur notre désir humain. Dans le second cas, on soumet notre désir humain à la volonté de Dieu. Dans les deux cas, le mariage aura sans doute lieu. Pourtant, j'ai l'intime conviction que le mariage sera plus solide avec la deuxième disposition d'esprit, parce que l'attitude des deux personnes sera une attitude de soumission à Dieu. Elles auront compris que Dieu les a remplies de son esprit pour qu'elles recherchent d'abord sa volonté, et c'est là qu'elles trouveront le réel bonheur. Alors que dans le premier cas, elles se seront d'abord soumises à leur désir, qui, même s'il n'est pas mauvais en soi, n'est pas forcément ce que Dieu voulait leur faire vivre, et il pourra plus facilement en découler des événements fâcheux pour le couple. C'est de cette façon que Dieu nous demande de vivre en tant que croyants remplis de son esprit. Nous sommes dans une série de messages où nous réfléchissons aux dons que Dieu nous accorde et comment nous pouvons les utiliser avec la puissance de son esprit pour le servir. C'est de cette façon, en pleine soumission à sa volonté, que nous pourrons le faire. Passons à un troisième épisode de la vie de David. Je viens de vous expliquer qu'en ne recherchant pas la volonté de Dieu pour savoir comment agir, nous nous préparons sans doute à vivre des événements fâcheux. Alors, j'imagine que vous connaissez bien la vie du roi David. Vous comprenez maintenant que je vais en venir à parler d'un épisode malheureux, l'histoire qui s'est passée avec Bathsheba. Qui connaît cette histoire avec Bathsheba? Ça va quand même. Cette histoire, elle est en 2 Samuel, chapitre 11, jusqu'à 2 Samuel, chapitre 12, 33. Donc deux chapitres. C'est trop long pour le temps qui nous est imparti, alors je vous encourage à le relire lorsque vous serez rentrés à la maison. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Nous voyons un homme puissant, un guerrier courageux, mais aussi un être humain merveilleusement imparfait comme nous tous, sujet aux passions et aux faiblesses. Malgré son statut d'homme selon le cœur de Dieu, il a succombé à la tentation et a commis des actes qui ont causé la souffrance d'autrui. Au printemps, David aurait dû être à la tête de son armée, mais il est resté à Jérusalem, où la tentation l'a trouvé. En regardant par sa fenêtre, il a été séduit par la beauté de Bathsheba, la femme d'Uri, l'un de ses vaillants hommes. Au lieu de résister, lui, l'homme rempli de l'Esprit de Dieu, il a cédé à ses désirs et a envoyé chercher Bathsheba, commettant ainsi l'adultère. Lorsque Bathsheba est tombée enceinte, David a tenté de dissimuler sa faute en faisant revenir Uri du front, espérant que celui-ci croirait être le père de l'enfant, fruit de cet adultère. Mais Uri, fidèle à son devoir et à ses camarades, a refusé de profiter de ce temps avec sa femme, tant que ses compagnons étaient encore en danger. Et face à cette obstination, David a chuté encore plus bas. Il a tenté de dissimuler, il a orchestré la mort d'Uri sur le champ de bataille, sacrifiant ainsi la vie d'un homme loyal pour cacher son propre péché. Par la suite, David a pris Bathsheba pour épouse, mais leur union était entachée par le mensonge, la trahison et le meurtre. Voilà donc David, homme selon le cœur de Dieu, homme rempli de l'Esprit de Dieu, se comportant comme le dernier des criminels, comme quelqu'un sans foi ni loi. Il devra supporter de lourdes conséquences dans sa vie personnelle, familiale, parmi son peuple. lié à cette faute d'un soir. Alors, qu'auriez-vous fait si vous aviez été Dieu face à une telle trahison? Je serais vraiment contente d'avoir quelques-uns de vos avis. Mettez-vous à la place de Dieu. Je sais, c'est difficile, nous ne sommes pas Dieu. Mais qu'est-ce que vous, vous auriez fait? David, celui que vous avez choisi, que vous chérissez, qui vient toujours vous demander son avis. Là, il commet ce qu'on pourrait appeler l'impardonnable. Non, vous n'osez pas répondre parce que c'est vrai, c'est difficile de se mettre à la place de Dieu. Moi, je ne veux pas vos avis en pensant à l'attitude de David par la suite, hein, parce que comme vous connaissez l'histoire, vous connaissez la fin de l'histoire. Mais là, au moment où on a fait pause dans l'histoire, où j'ai appuyé sur la télécommande, le film s'est arrêté. Qu'est-ce que vous auriez fait? Moi, je me serais retrouvée dans la place du juste juste, j'aurais renié David, j'aurais fait avec lui comme j'avais fait avec Saül. J'ai déjà l'exemple, alors je fais pareil. Il a rejeté Saül, il va rejeter David, c'est logique. J'accorde mon esprit à cet homme-là. Et voilà comment il bafoue le trésor que j'ai placé en lui. Mais c'est quoi ça? Bon, on sait bien que ce n'est pas ce que Dieu a fait avec David. Il lui a plutôt envoyé un messager, le prophète Nathan, qui a dénoncé son péché, qui a prononcé le jugement de la part de Dieu. L'enfant né de cet adultère ne vivra pas. David et Bathsheba connaîtront la souffrance ultime de voir le fruit de leur péché périr. Et c'est là que c'est extraordinaire, parce que oui, David est quand même rempli de l'Esprit de Dieu. Il va accepter la sentence. Quand l'enfant meurt, il ne se rebelle pas. Il va se repentir d'un repentir sincère. Si nous aussi, nous nous laissons être habités par l'Esprit de Dieu, alors oui, cet esprit parle à notre esprit et nous convainc de péché. C'est ce qui se passe au moment de notre conversion. L'Esprit de Dieu ne peut habiter en nous que lorsque nous confessons nos péchés et que nous les abandonnons. Et c'est alors que l'Esprit de Dieu peut faire grandir en nous les dons qu'il veut bien nous accorder. Cette expérience vécue par le roi David m'enseigne aussi quelque chose. Une fois que le péché a été confessé, que Dieu a fait passer sa justice pleine et entière, il n'a pas repoussé l'homme selon son cœur. Bien sûr, David a connu des épreuves qui ont découlé de son péché, mais il a vu la communion avec Dieu être rétablie. Il a pu proclamer sa confiance en Dieu, son amour pour lui dans de magnifiques psaumes, en particulier le psaume 51. Dieu a pardonné David, il ne lui a pas ôté la royauté, parce que son repentir était sincère. Et l'enseignement que j'en tire, c'est que moi, je ne peux pas me faire plus sévère que Dieu. Et pourtant, c'est parfois dans cette posture que nous nous plaçons entre frères et sœurs. Cette expérience de David, ça nous rappelle la fragilité de la condition humaine, la réalité du péché, même parmi des leaders spirituels. Elle nous rappelle que personne n'est à l'abri des tentations et des faiblesses de la chair. Et même que les plus respectés d'entre nous peuvent chuter. Une sœur, un frère ne sont pas disqualifiés à vie parce que elle ou lui a cédé à la tentation. L'histoire de David nous appelle à être vigilants pour nos vies, mais elle nous rappelle aussi à contribuer à la restauration de celle ou de celui qui a failli lorsqu'elle ou il se repent sincèrement. Parce que c'est aussi cela, un don de l'Esprit en nous. C'est mentionné en 1 Corinthiens 12 qu'à certains, il est donné le don de guérison. Beaucoup imaginent que ce don de guérison est celui de guérir miraculeusement des maladies physiques. Mais le don de guérison, ça peut être compris également dans le sens d'un don de restauration. Dieu nous permet par son esprit de discerner le repentir sincère d'une personne et de l'aider à se relever. Si Dieu lui-même nous laisse à nouveau entrer dans la communion avec lui, alors nous, les chrétiens, nous devons aussi laisser celui qui s'est écarté par son péché revenir dans la communauté et reprendre la place que l'Esprit de Dieu veut lui donner. David a été restauré par Dieu et a pu continuer à le servir animé par son esprit. Nous aussi, laissons nos sœurs et frères faire de même. Alors j'aimerais conclure avec vous ce matin. Aborder la question des dons de l'esprit nous conduit à réfléchir à la question du don de l'esprit en nous, personnellement, dans nos cœurs. Comment être renouvelé dans nos actions? Comment voir Dieu développer en nous des talents, des capacités, des dons par son esprit? Il habite en nous pleinement et totalement. L'histoire de David nous a rappelé que l'Esprit de Dieu développe en nous le désir de le glorifier, comme il l'a fait face à Goliath, de le servir, pas juste parce que nous savons le faire, comme quand il a joué la lyre auprès de Saül, mais parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est là en nous. Nous y sommes poussés par son Esprit et nous sommes qualifiés par cet Esprit. L'histoire de David nous a rappelé que si nous abandonnons notre vie à Dieu, si nous lui abandonnons nos décisions, si nous soumettons notre volonté à son esprit, alors il est fidèle et juste pour nous bénir et nous apporter ce que nos cœurs désirent. Mais l'histoire de David nous rappelle également que nous sommes des êtres humains faibles et que nous ne devons pas être présomptueux. Aucun de nous n'est parfait et tous nous sommes soumis à la tentation. Mais là encore, Dieu entend notre repentance et nous relève. Au final, tout ce qui compte, ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu qui compte, mais l'attitude de notre cœur et la soumission de notre esprit à son esprit. Galates 5, 25 déclare « Puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le diriger aussi notre conduite. » Oui, réellement, c'est en laissant l'Esprit diriger toutes choses dans nos vies que nous vivrons réellement et pleinement ce que Dieu a prévu de toute éternité pour nous. Amen. Prions. Seigneur, ce matin, avec l'exemple de David, tu nous encourages à nous placer devant toi. Nous avons chanté ce matin « Sonde-moi et connais mon cœur ». C'est vraiment ce que ton esprit nous pousse à faire. Nous placer devant toi, nous humilier devant toi, te laisser sonder notre vie, afin que ton esprit puisse éclairer les aspects positifs, mais aussi les aspects négatifs de ce qui constitue cette vie, afin que nous puissions te laisser agir en nous, nous laver, nous purifier. Oui, nous le proclamons, ton sang nous a purifiés de toute iniquité, mais ce n'est pas acquis une fois pour toutes. Tu nous demandes de faire attention, de ne pas céder à la tentation, de revenir sans cesse à toi, de laisser ton esprit faire le ménage en nous. Que nous puissions ce matin reconnaître ta toute-puissance dans nos vies et que nous puissions avoir le désir d'apprendre à nous soumettre à toi afin de te glorifier, afin de montrer à ceux qui nous entourent comment par ta puissance tu nous régénères et tu nous transformes. Nous te bénissons, nous te louons en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.